Bonjour à tous. Alors pour changer, je vais vous partager quelques astuces, quelques conseils simples à mettre en pratique qui sont fondamentaux si vous voulez optimiser votre pratique de sportif d'endurance, autrement dit votre filière énergétique aérobie. Comment la rendre la plus efficiente possible? Et ce que je vous livre là, c'est le fruit de mon expérience personnelle en tant que pratiquant depuis longtemps, aussi de consultant et réalisateur d'entraînement, encadrant sur le terrain, consultant auprès de sportifs de tout niveau. Et je vais vous donner cinq recommandations simples que vous pouvez facilement mettre en œuvre. Le premier conseil, ça va donc être de bien répartir le temps que vous avez pour vous entraîner dans une semaine. Par exemple, plutôt que de faire deux séances de sport de 3-4 heures le samedi et le dimanche, il est bien plus intéressant de faire 4 séances de 1 à 2 heures le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Cette répartition en sessions d'entraînement qui sont plus courtes, c'est bien plus bénéfique si on veut développer la filière aérobie, que ce soit en puissance, en capacité énergétique. C'est bien plus pertinent. On peut parfois faire ces 4 sessions sur 4 jours d'affilée, mais ça ne va pas être systématique. Il est préférable, plutôt si vous avez la possibilité de faire 4 fois du sport dans la semaine, de les répartir avec un jour de repos. Ça sera plus intéressant. Ça vous laisse le temps de récupérer et donc d'arriver à avoir une cumulation plus efficace de l'effet de l'entraînement que si vous les faites 4 jours d'affilée. C'est pas systématique, hein. On peut faire parfois 4 jours d'affilée, je vais y revenir après. L'autre intérêt de cette pratique-là, c'est qu'il arrive un moment où en fait on progresse plus beaucoup et où l'enjeu devient juste de s'entretenir, de maintenir son niveau, ce qu'on a acquis. Et parce que on n'a pas le temps de s'entraîner plus, parce qu'on avance en âge, et donc il s'agit d'entretenir. Et ben, pour entretenir votre niveau, c'est pareil, il est beaucoup plus profitable de faire 4 fois 1 heure qu'une sortie de 4 heures le week-end. Ça, c'est vraiment le conseil clé. Il est important que les stimuli aérobie soient fréquents, très fréquents. Avoir des périodes longues d'interruption, 10 jours sans activité, puis 10 jours avec plein d'activités, c'est pas très pertinent. Ok? Voilà, ça c'est le premier conseil, c'est la régularité et la fréquence qui se répètent sans avoir de gros espaces de vide. On arrive au deuxième conseil. Ce deuxième conseil, il est un petit peu lié au premier. En fait, il est important de faire varier les contraintes aérobies que vous allez vous imposer. Donc, par exemple, si en fait on fait tout le temps la même chose, c'est-à-dire des sorties de 1 heure et demie, 4 fois par semaine, si on fait tout le temps la même chose, et bien au bout d'un moment, ça devient, il y a une lassitude un peu psychique, mais pas seulement, même au niveau physiologique. Le fait de répéter le même stress, on arrive finalement à ne plus avoir de stimulation positive. Et donc de temps en temps, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui vient casser cette routine. Et donc d'avoir par exemple, plutôt que d'avoir 4 séances d'1 heure et demie, ben de temps en temps, d'en avoir une beaucoup plus longue. Ou d'avoir par exemple quelques séances très rapprochées sur quelques jours, sous la forme d'un stage par exemple. Et puis aussi un contenu aussi qui va être très différent. Donc ça, c'est important d'avoir une variation assez régulière de votre style de pratique. C'est lié au premier conseil que je vous ai donné. Donc c'est le deuxième conseil clé, la variabilité de votre activité. On va arriver au troisième conseil. Troisième recommandation, savoir se reposer de temps en temps. Les sportifs d'endurance ont tendance, une fois qu'ils ont commencé à être bien ancrés dans leur pratique, à pratiquer régulièrement, à craindre de rester plusieurs jours sans activité. C'est quelque chose qui devient psychologiquement dur à tolérer. Et pourtant, c'est important de temps en temps d'avoir un cycle de 4 à 5 jours où on n'a pas du tout de sport. Je n'ai pas dit très souvent, de temps en temps. Par exemple, tous les 2 mois, par exemple. Ça, c'est important parce que ça permet d'évacuer des fatigues résiduelles qui peuvent rester si vous pratiquez très régulièrement tous les 1 à 2 jours ou tous les 1 à 3 jours. C'est-à-dire d'avoir un temps un peu plus long pour pouvoir évacuer des fatigues musculaires qui ont parfois du mal à s'évacuer, notamment dans des sports comme la course à pied. Donc ça, c'est important de le faire. Et si vous en faites l'expérience, vous verrez que souvent, Peut-être la première journée, elle est un petit peu déstabilisante, mais très rapidement, les sensations, on a l'impression d'avoir vraiment progressé en ayant juste fait 4 à 5 jours où on n'a rien fait. Donc ça arrive. Mais ça fonctionne si on s'entraîne déjà régulièrement avant. Mais ça, c'est un truc très important qu'il faut intégrer régulièrement. Quatrième recommandation, l'intensité. Il faut en fait intégrer régulièrement de l'intensité sur votre filière aérobie, sur des efforts de 3 à 12 minutes par exemple. Parce que si vous roulez toujours à une allure modérée, bien votre organisme, lui, il comprend bien qu'il n'a pas besoin de développer des adaptations plus importantes, puisque de toute façon, vous ne sollicitez jamais dans ces conditions-là. Et donc l'organisme, il va s'habituer, si vous voulez, au minimum dont il va avoir besoin régulièrement. OK? Donc ça, c'est important. C'est pour ça que ça va être important d'intégrer régulièrement des phases d'intensité. Et cette intensité, ça vous renvoie directement à la filière qu'on appelle puissance aérobie, la puissance maximale aérobie, qui est fortement liée à votre VO2 max. VO2 max, volume maximal d'oxygène que l'on peut consommer pendant l'effort. Et ça, c'est un paramètre qui est fortement déterminé par des paramètres, par vos limites, je dirais, naturelles, génétiques entre guillemets. Mais pour atteindre ces prédispositions naturelles, il faut quand même s'en donner la peine. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aurait de très bonnes prédispositions naturelles sur cette filière qu'on est déjà à un bon niveau. En fait, si on ne s'en donne pas la peine, on n'atteint pas ses limites. Et donc régulièrement, il faut intégrer l'intensité. Alors, il n'existe pas un intervalle, un type d'effort qui serait universel et le plus efficace pour tout le monde. Ça n'existe pas. Okay? Il existe des quantités d'efforts possibles. Certains seront plus ou moins efficaces selon que vous êtes débutant, plus ou moins entraîné, que vous avez un profil d'endurance plus ou moins accentué. Ça sera donc très variable. Mais en pratique, il y a quelque chose qui est rarement présent dans les livres, que j'aimais bien pratiquer. Pour moi, mais que j'ai également proposé parfois à quelques cyclistes que j'ai suivis, ça consiste à réaliser sur une période où vous avez du temps, 15 jours, 3 semaines devant vous, vous avez pas mal de temps libre, des sessions tout simplement de contre-la-montre, courts, de 3 à 12 minutes, sur des parties roulantes, sur des côtes, et que vous allez faire dans l'objectif de battre votre record à chaque fois sur ce circuit. C'était intéressant, je trouvais, de faire ça parce que c'était à la fois un petit challenge. À chaque fois, on avait un circuit de prédilection et on essayait de venir eh bien, battre son record. Si vous voulez, c'est l'ancêtre des comme Strava. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on se met vraiment à plein régime. Sur des efforts de 3 à 12 minutes, c'est important que ce soit variable, qu'on n'ait pas que des efforts de 10 minutes. Mais qu'on ait quelque chose qui varie entre 3 et 12 minutes. Parce que sur un effort de 3 minutes, évidemment, on va être à une puissance bien plus élevée, qui va aussi mettre en jeu plus de force musculaire, plus de puissance anaérobie et de capacité anaérobie. Alors que sur un effort de 12 minutes, à l'inverse, on va devoir commencer à jouer avec notre temps de soutien à VO2 max, avec une dérive de la fréquence cardiaque aussi qui peut se produire. Et ça, c'est intéressant parce que sur un effort de 10 minutes, on passe pas mal de temps à VO2 max, même si la puissance elle chute, on reste en fait à un niveau de dépense énergétique au niveau cardiovasculaire et respiratoire qui est très élevé. Et donc ça c'est très intéressant. Donc c'est pas trop quelque chose qui est souvent évoqué dans les livres. Et pourtant c'est intéressant, je vous invite à essayer ça au moins une fois dans votre vie. Et sinon, bah écoutez, il y a pléthore de modes d'intervalle training qui existent, vous en trouverez des quantités sur le web. Mais retenez juste qu'il n'existe aucune méthode universelle efficace pour tout le monde. Cinquième et dernier conseil que je peux vous donner, qu'on néglige souvent, c'est l'entraînement de la force musculaire. Et oui, parce que toute performance en course à pied, en vélo, ce que vous voulez, elle passe d'abord par le muscle, c'est-à-dire que c'est le premier élément, le premier maillon de la chaîne quasiment, ça va être votre muscle, les muscles. Et donc avoir un niveau de force musculaire suffisant, optimisé, je parle pas de volume musculaire, je parle de force musculaire, c'est quelque chose qui est important pour plein de raisons. Par exemple, si vous avez un niveau de force musculaire, je ne sais pas, je vais vous dire une valeur quelconque, mais quand vous montez un col, si vous utilisez 15% de votre force musculaire maximale pendant cette montée de col, eh bien vous allez accumuler moins de fatigue neuromusculaire qu'à quelqu'un qui va monter ce col à 20% de sa force maximale musculaire. Parce qu'en réalité, quand vous montez un col, vous utilisez un faible pourcentage de votre force maximale. Et plus ce pourcentage il va être bas, à un niveau de puissance donné, eh bien, plus ça va être intéressant parce que vous allez accumuler beaucoup moins de fatigue neuromusculaire. On s'aperçoit également que le fait d'avoir un niveau de force musculaire plus élevé, c'est intéressant en termes d'efficacité, de rendement énergétique, à la fois d'efficacité gestuelle, mais également de rendement métabolique. Et parfois, on peut observer même des sportifs qui progressent en termes de puissance maximale aérobie, alors qu'ils ont juste fait des séries de sprints de quelques secondes. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on vient chercher des paramètres périphériques qui sont la force musculaire et qui vont avoir un impact sur votre capacité d'endurance et votre puissance aérobie. Et pour travailler ça, par exemple, c'est tout simple, il suffit, quand vous êtes sur votre balade en vélo, vous sortez d'un rond-point, ou après un céder le passage ou un stop, eh bien de faire une relance très franche, de quelques secondes, vraiment à plein régime. Vous pouvez varier en le faisant assis, en le faisant en danseuse, en le faisant avec un braquet trop petit, avec un braquet trop grand, avec un braquet idéal, dans différentes circonstances. Ayez de l'imagination, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, que je vous
Et
recommande
si vous
également.
voulez, pour vous amuser, je vous propose un petit exercice que vous pouvez faire sur une sortie de vélo.
Imaginez, vous commencez à pédaler et vous vous mettez dans une montée pas trop difficile, hein, et puis vous montez entre 150 et 200 watts, une allure plutôt modérée, hein, pas très soutenue. Et donc vous commencez à monter comme ça, et vous allez observer que votre fréquence cardiaque va se plafonner à une valeur qui correspond à la puissance que vous utilisez. Et puis, à un moment donné, déchaussez une pédale, c'est-à-dire décliquez votre pédale. Et continuer à la même puissance sur une seule jambe. Même puissance sur une jambe, pendant 1 minute si vous pouvez. En fait, vous allez très vite vous rendre compte que, bon, évidemment, musculairement, ça va être difficile. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart du temps, vous ressentez un essoufflement qui augmente et qui est également validé par une augmentation de la fréquence cardiaque, alors que vous montez à la même puissance. Et ce qui est contre-intuitif, c'est qu'en plus de ça, vous pédalez avec une seule jambe, donc moins de masse musculaire engagée. Donc logiquement, quand on a moins de masse musculaire engagée, on observe qu'il est compliqué d'avoir une fréquence cardiaque maximale qui est atteinte. Par exemple, si on vous faisait faire un test de PMA qu'avec les bras, vous verriez que ce serait très compliqué de faire monter votre fréquence cardiaque au maximum, parce qu'en fait, il y a trop peu de muscles engagés. Et bien là, en pédalant sur une jambe, la fréquence cardiaque augmente et la respiration devient aussi également plus importante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est assez étonnant. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a une, c'est qu'on est moins bien, on a une moins bonne coordination sur une jambe. Mais si on le travaille un peu, on finit par être à l'aise à pédaler sur une jambe. On finit par avoir un geste affiné. Et même en ayant bien affiné cette technique, ce phénomène est toujours présent. Et il y a un autre paramètre qui joue, c'est que lorsque vous mobilisez du coup un haut niveau de force musculaire pour pouvoir développer vos 150 à 200 watts, eh bien, du coup, le rendement énergétique, le rendement métabolique est altéré. Il se passe quelque chose qui fait que on a un mauvais rendement. Et vous pourriez observer la même chose, par exemple, si vous commencez à monter une côte avec un braquet beaucoup trop grand à 40 tours minute au lieu de 80. En fait, à puissance identique, ça va devenir quelque chose d'inconfortable. Et il est possible que votre rendement métabolique se désaltère.
Qu'est-ce que je dis? Non, pas désaltéré, que votre rendement soit altéré. Excusez-moi, ma langue a fourché.
Parce que vous travaillez sur un niveau de force musculaire élevé. Vous êtes super entraîné en endurance, vous en faites des kilomètres, vous faites de l'intensité, mais musculairement, vous avez quelques lacunes qui vous empêchent de vous exprimer pleinement. Voilà, donc ça, c'est un conseil quand même qui est souvent négligé. Et qui est important. Et qui va être important plus on va avancer en âge, parce qu'il y a un moment donné, au fil des décennies, eh bien, le niveau de force musculaire a tendance à chuter. Et le fait de le stimuler régulièrement, ça permet de conserver un bon niveau de force neuromusculaire et également de conserver de la masse musculaire. qui a tendance à chuter si on ne stimule pas suffisamment les tissus. Voilà, j'en ai fini pour quelques conseils simples et pratiques à mettre en place, qui sont faciles à faire. Et puis, je vous donne rendez-vous pour peut-être d'autres recommandations qui peuvent venir comme ça à l'occasion de questions que vous pouvez poser. Et je suis content de vous avoir partagé ces petites astuces simples que moi j'utilise dans ma pratique régulière. Merci de votre attention et à bientôt.